quand je suis arrivée sur ce territoire, j'ai été très étonnée de la quantité d'enfants et de la quantité d'associations qui mobilisent une sacrée quantité de bénévoles autour de...
la famille et des enfants.
Ouais.
Mmh.
Et de l'éducation. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat ?
Je pense qu'elles sont complémentaires, en fait. Que, pour le coup, l'association Les Petits Bouts se dirige vraiment sur des activités qui sont là pour enrichir le lien parent-enfant. Et qu'après, il y a d'autres assos qui vont proposer des activités pour les enfants. Mais sur cette problématique vraiment du lien parent-enfant, on a quand même une spécificité sur le territoire.
Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Stéphanie Rocher.
Alors, ça fait combien de temps que l'association des Petits Bouts existe à Perlevade ?
Alors, à Perlevade, c'est depuis 2016. Mais l'association, elle existe depuis fin décembre 2006. Elle a été créée par des parents qui vivaient plutôt autour de Sornac, donc très longtemps, sans avoir de lieu fixe. On a quand même organisé les premières rencontres plutôt sur Sornac et alentour. L'idée de départ, c'était que les familles puissent se rencontrer sur un territoire où, assez vaste, où c'était pas forcément évident de... C'était quand même beaucoup de familles qui arrivaient sur le territoire, qui n'avaient pas de famille en place ici. Donc l'idée, c'était de pouvoir rencontrer d'autres familles, que leurs enfants rencontrent d'autres enfants, et de participer à l'éveil et l'épanouissement du jeune enfant en proposant des activités qui étaient organisées par des professionnels. Par exemple, ça a commencé avec des ateliers d'éveil musical.
Et ensuite, du coup, l'association s'est structurée un peu différemment.
Assez vite, on a été repérés par les partenaires, notamment la CAF, qui a proposé à l'association d'être porteur de projets, enfin pour créer la première micro-crèche de Haute-Corrèze à Sornac. Donc l'association a créé la première micro-crèche. Après quelques années de fonctionnement, la gestion de la micro-crèche a été transférée sur la communauté de communes. Donc aujourd'hui, c'est Haute-Corrèze Communauté qui la gère. Mais du coup, ça nous a quand même donné, mine de rien, une structure un peu solide et une reconnaissance aussi des partenaires. Donc en parallèle de la micro-crèche, il y a toujours eu quand même des rendez-vous réguliers organisés par des bénévoles ou animés par des professionnels dans leur domaine, sur toujours des activités d'éveil pour les enfants, mais ça pouvait être aussi du massage bébé, des ateliers de portage, des ateliers de signer avec bébé, ça c'est venu assez vite. Des rencontres aussi pour les parents, les rencontres Faber et Maslisch, qui étaient à l'époque animées par Isabelle Lequit et qui étaient là pour... aider les parents à mettre en place une communication bienveillante avec leurs enfants. Donc tout ça, c'était en parallèle de la micro-crèche. Mais c'est ce qui a donné quand même de la légitimité à l'association, qui fait que quand ici, la mairie de Perlevade a souhaité aménager la maison des assos et proposer des locaux, il n'y a pas eu de souci pour que les Petits Bouts puissent s'installer ici, donc avec un lieu fixe. Qui pouvait permettre aux familles de rester plus longtemps sur place.
Du coup, j'imagine que tu es mère.
Ouais.
Et est-ce que tu avais envisagé vraiment la question de l'éducation ? Enfin, est-ce que tu t'étais formée ou à quel point tu t'étais renseignée et comment tu t'es forgé une pratique, en fait, là-dedans ?
Alors déjà, c'est pas mal de revenir sur mon histoire effectivement avec l'asso, c'est que avant d'être salariée, aujourd'hui je suis salariée de l'association, mais effectivement j'ai connu l'association en tant que maman. Je pense que oui, de toute façon on se pose des questions. Quand on devient mère, on se pose des questions. Puis après, quand on a vraiment... les enfants avec nous, on s'en pose encore plus. Je suis très contente, en tout cas pour moi, d'avoir eu une asso comme ça sur mon chemin, d'avoir croisé cet asso. Parce qu'elle a vraiment rempli les fonctions qu'elle se donne, en fait. D'une part, j'arrivais sur le territoire, donc ma famille était loin, et ça m'a vraiment permis de reconstruire une seconde famille. Mes meilleurs amis, je les ai rencontrés dans les activités que proposaient les petits bouts. Après, je me suis investie assez vite en tant que bénévole, donc là, ça construit aussi quand même les liens forts. Et puis, effectivement, ça m'a donné des billes dans l'éducation de mes enfants et dans les choix. En tout cas, ça a construit mes choix éducatifs. Tout en gardant, bien sûr, en tête que rien n'est parfait et que ça évolue tout le temps, parce qu'on évolue tous. Nous, on évolue en tant qu'adultes, les enfants évoluent en tant qu'adultes et on a toujours besoin, en fait, finalement. Par moments, on a l'impression de... Non, mais là, c'est bon, j'ai plus besoin d'aide, mais en fait, si.
Voilà plus d'une heure que je te tiens dans les bras. Voilà quelques jours que je suis tout à toi. Il est très tard et tu dors pas. Je t'ai fait une berceuse, la voilà. Demain, le jour sera là. Et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les fées viendront te réveiller.
Fais dodo.
Pourquoi tu dors pas? Demain il faut que je me lève tôt. J'ai un rendez-vous hyper important. Si t'aimes ton père, si tu l'aimes vraiment, sois fatigué et dors maintenant. J'ai sauté sur l'occasion, t'avalais ton biberon pour un micro-sommeil de 10 secondes environ. C'était confort, j'ai bien récupéré. Maintenant tu dors, t'arrêtes de nous faire
chier.
Là, du coup, on est dans le local des Petits Bouts, à la maison des assos de Perlevette, qui est juste à côté du CADA. Tu parlais de l'accueil et de l'importance que ça a eu pour toi, qu'il n'y avait pas de famille quand tu es arrivé dans le coin. Est-ce que les Petits Bouts travaillent de manière un peu particulière avec les familles du CADA ou...
Oui, bien sûr, c'est pas pour rien qu'on est là. Il y a toujours eu l'envie, en tout cas, de rendre le séjour des familles qui vivent au CADA, en tout cas d'essayer de leur donner un peu de soutien le temps où ils sont là. Sur le lieu d'accueil enfants-parents, donc ça c'est tous les mardis ici, le local est ouvert à tous et ils sont libres, ces familles comme d'autres, de venir en fait et de jouer avec leur enfant et d'avoir un espace chaleureux autant que possible et accueillant pour leurs enfants. C'est aussi un temps de pause pour les parents, une bulle. Il y a beaucoup de mamans qui vivent seules avec leurs enfants, donc on est là pour ça. Et après, sur les autres activités, on essaye effectivement le plus possible de les y inviter, de les y convier. Voilà. Dans la mesure du possible, on essaye de travailler avec les équipes salariées du CADA. Sauf que les équipes, elles changent très souvent, en fait. Et ça fait pas si longtemps qu'il y a un animateur à temps plein, avec qui, du coup, on construit. Mais lui, comme nous, en fait, comme c'est pas dans la culture, entre guillemets, qui a été installée entre nos deux structures, et ben, on est en train de le construire, en fait, ce lien. Donc, y a des choses qui se font et des choses qui ne pourront pas se faire parce qu'on a deux structures avec des objectifs différents aussi en construction.
Et après, je ne sais pas si c'est très simple à n'importe qui de franchir la porte des petits bouts et de se dire, bah tiens, est-ce que, comment ça se passe, est-ce que je vais venir ici pour jouer avec mon enfant, mais pourquoi ici et pas ailleurs?
C'est aussi pour ça que c'est important qu'on travaille en équipe. On travaille aussi avec d'autres associations qui sont sur Perlevade, comme le MAS ou la CIMAD, qui peuvent aussi faire parler de notre structure, en tout cas aux familles. Alors ça, c'est pour les familles du CADA. Et pour les autres familles, bah oui, c'est un travail qui prend du temps. Le lieu d'accueil enfants-parents, il n'est pas super connu sur notre territoire. Il y a des endroits où il y en a beaucoup plus que par ici. C'est assez nouveau pour les familles. Et donc, du coup, bah oui, c'est pareil, c'est une culture en construction et il faut que nous, on explique ce que c'est, et aux familles, et aussi aux partenaires qui vont se faire relais de nos actions.
Les ateliers que vous proposez, ils sont extrêmement tournés vers la créativité, l'expression corporelle. Je ne sais pas si j'ai vu passer des choses de peinture. Comment vous construisez les propositions et qu'est-ce que ça dit peut-être de votre point de vue sur l'éveil
voilà. Alors nos propositions, clairement, elles sont construites à partir des besoins des familles, exprimés par les familles, puisque dès le départ, c'était quand même des familles qui ont commencé à proposer et à chercher des intervenants, et puis finalement, c'est rentré un peu dans le fonctionnement de l'association. C'est construit aussi à partir des propositions que nous font les intervenants. Clairement aussi, on recherche des intervenants qui ont à cœur vraiment, dans leurs ateliers, de pouvoir nourrir le lien parent-enfant. Ce n'est pas une activité pour un enfant où le parent va être spectateur. On a vraiment envie qu'il y ait une interaction entre les deux. Oui, c'est dans le faire et dans l'expression du corps, du cœur, que peuvent s'exprimer au mieux les ressentis des parents et des enfants, en fait. Enfin, ouais, c'est... Ouais.
Est-ce que tu pourrais me parler un tout petit peu de Faber et Maslisch et de la communication bienveillante et...
Alors, Faber et Maslisch, c'était une entrée qu'on a eue il y a quelques années. Aujourd'hui, finalement, il n'y a pas forcément d'atelier Faber et Maslisch proposé, mais en tout cas, il reste toujours les ateliers qui sont proposés par Sophie Planson, qui sont les ateliers des parents et qui se basent... Enfin, la base peut être à peu près la même, quand même. Dommage que Sophie Planson ne puisse pas en parler. Elle en parlerait beaucoup mieux que moi.
Sophie Planson, où vous cachez-vous donc?
Non, mais elle a dit qu'elle ferait pas. Ouais. L'idée, en gros, c'est de faire le constat... Oui, il n'y a pas de parent parfait, ça c'est sûr. Non, mais c'est de faire le constat que... qu'il n'y a pas de parent parfait, merci, et que de pouvoir échanger en groupe, en fait, sur comment on gère à la maison des situations qui finalement sont vécues à peu près pareil dans chaque famille. Déjà, d'une, de se dire, ah mais tiens, je ne suis pas la seule à vivre ça, ou je ne suis pas le seul à vivre ça, c'est pas mal. Déjà. Et après, trouver ensemble des solutions qui sont irrespectueuses du développement de l'enfant, irrespectueuses de soi-même en tant que parent. Voilà. En gros, moi, je dirais que c'est à peu près ça, le principe. Et puis, un principe de soutien, hein, tout court. Un groupe de parole entre parents où on se soutient et on s'entraide. C'est pas mal.
Les petits bouts, pour venir jouer ici, est-ce qu'il y a une espèce de limite d'âge ou...
Alors, par rapport au lieu d'accueil enfants-parents, effectivement, le lieu, il est ouvert, il est gratuit, anonyme, et c'est pour les enfants âgés de 0 à 6 ans, qui viennent accompagnés d'un adulte référent. C'est pas forcément le papa ou la maman, ça peut être les grands-parents, ça peut être le tuteur, la tutrice, enfin voilà, ça peut être un ami référent, un ami de la famille. Donc de 0 à 6 ans. Après, s'il y a des grands frères, des grandes sœurs qui accompagnent l'enfant, ils sont accueillis aussi. Après, ça, c'est sur le lieu d'accueil enfant-parent. Et pour les autres activités, ça dépend des activités proposées, en fait. Ouais. L'éveil musical, l'éveil corporel, c'est de 2 à 6 ans. Mais le théâtre, ça va être à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans. Enfin, voilà, ça dépend des activités.
Et il y en a pas mal, dis donc.
Oui.
Demain, le jour sera là, et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux, et dans tes rêves, toutes les fées. Dors, dors, dors.
Bordel,
pourquoi tu dors pas? Dors, dors, dors.
Laisse dormir ton papa.
Ce que tu regardes en riant, que tu prends pour des parachutes, ce sont mes paupières, mon enfant. C'est dur d'être un adulte. Allez, on joue franc jeu, on met cartes sur table. Si tu t'endors, je t'achète un portable, un troupeau de poneys, un bâton dynamite, j'ajoute un kangourou. Si tu t'endors tout de suite, tes paupières sont lourdes. Tu es en mon pouvoir. Une sensation de chaleur engourdit ton corps. Tu es bien, tu n'entends plus que ma voix. Je compte jusqu'à 3 et tu vas t'endormir.
Récemment, dans la newsletter des Petits Bouts, il y a comme une série autour de la scolarité à la maison, enfin l'enseignement à domicile, enfin je ne sais pas comment.
L'instruction en famille.
L'instruction en famille. Qui est un peu menacée actuellement. Et c'était aussi pour parler de ça que j'avais envie de
vous rencontrer. Ah oui, d'accord. Eh bien oui, donc nous, dans l'asso, on accueille toutes les familles. Toutes, vraiment sans distinction. On vient comme on est et comme on a envie. Et notamment, on accueille quelques familles qui ont fait le choix de l'instruction en famille. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas scolarisés et font école à la maison ou du unschooling. Enfin, après, il y a plein de façons différentes de faire l'instruction en famille.
Le unschooling ?
Le unschooling, c'est de l'apprentissage sans apprentissage formel, en fait. Non, mais il y a vraiment plein de manières d'aborder cette question. Et donc... quand on a appris que ce choix, en fait, cette liberté d'éducation était menacée par un projet de loi, donc le projet de loi contre les séparatismes, on a souhaité soutenir les familles qui s'opposaient à ce projet de loi et nous opposer nous-mêmes à ce projet de loi. Donc on a proposé différentes actions. Effectivement, toutes les semaines depuis... là, il y a eu 3-4 portraits, donc ça fait un mois à peu près. Toutes les semaines, en fait, on propose le portrait d'une famille qui vit sur le territoire et qui a fait ce choix d'instruction en famille pour justement montrer un peu la diversité de choix, de raisons aussi pour lesquelles les familles ont fait ce choix. On a également écrit un courrier au nom de l'association à tous les députés et sénateurs de notre territoire, mais aussi des commissions loi et éducation du Sénat et de l'Assemblée nationale. À notre maire, en essayant de mobiliser un peu les élus sur cette question.
Je repensais à la présence des personnes qui demandent l'asile, la présence du CADA en fait sur le village, et comme il y a eu une manifestation très récemment, et j'ai re-regardé des archives et souvent évoqué le fait que pour faire accepter les CADA aux habitants, l'argument de garder la classe ouverte c'était l'argument numéro un, en fait. Et j'ai même entendu dire des gens, on les a fait venir pour conserver l'école, peut-être qu'on les accueille correctement. Bon, c'était une manière de mettre en question l'engagement potentiel des élus sur la question de l'enseignement à domicile.
Ouais.
Je sais pas si ça sert trop leurs intérêts.
Ah oui. Bah ça, c'est le grand argument qu'on a en local, ça c'est sûr, depuis toujours. Mais je suis pas certaine que de rendre l'école obligatoire résolvera ce problème-là. Enfin, c'est là où nous, on apporte aussi une autre question, enfin, où on élargit en disant, bon, ok, dans les différentes raisons qui amènent les gens à faire l'IEF, il y a aussi que l'éducation actuelle, l'éducation nationale actuelle ne convient pas. Alors comment on fait pour réfléchir ensemble à, à comment pourrait être l'école, comment elle s'adapterait mieux aux besoins des enfants. Alors nous, les réponses qu'on reçoit des officiels, en tout cas de ceux qui sont farouchement pour ce projet de loi, dont une réponse du ministre Darmanin, il reste vraiment bloqué sur cette histoire des extrémismes, de non-contrôle en fait de l'islamisme, et il reste vraiment bloqué là-dessus. Après, en vrai, on peut supposer plein de choses. Je pense qu'il y a une volonté de contrôle globale, mais comme c'est pas dit, je vais pas non plus m'avancer. Il y a eu, de la part des familles qui font l'instruction en famille, effectivement, il y a aussi, elles disent qu'avec le confinement 1, il y a pas mal de familles en fait, qui ont testé et qui finalement se sont plus dans ce système éducatif. Et du coup, on fait ce choix-là à la rentrée. Et ça ne cesse, les chiffres ne cessent d'augmenter depuis plusieurs années, en fait. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais... Donc, est-ce qu'il y a aussi cette peur de perdre le contrôle sur ses enfants? Il y a une réponse officielle et plein d'hypothèses non officielles, quoi, on va dire.
Pourquoi tu veux pas dormir? Pourquoi tu dors pas? Je te donnerais bien un somnifère, mais y'en a plus, demande à ta mère. T'es insomniaque ou quoi? Puisque tu me laisses pas le choix.
Voici le temps des menaces.
Si tu dors pas, je te place.
Dors, dors, dors.
Mais on dirait que ça marche. Tu fermes les yeux, tu es si sage. C'est merveilleux, tu dors comme un ange. Tu as de la chance, moi aussi j'ai sommeil. Mais c'est le matin, il faut que je m'habille. Je me suis énervé, mon amour, je le regrette, pour me faire pardonner. Je vais te jouer un peu de trompette.
Alors donc, les petits bouts,
ouais.
Et ça fait plaisir à lire chaque semaine, ne sont pas confinés.
Non.
Et du coup,
pourquoi?
Est-ce qu'on peut... Bah oui, tiens, pourquoi?
Ouais. Alors déjà, la différence avec le confinement 1, c'est qu'au confinement 2, les autorités ont décidé que les lieux d'accueil enfants-parents pouvaient rester ouverts. avec des petites règles à suivre, mais qu'on avait déjà mis en place, nous, à peu près, même avant le confinement. Donc, c'est-à-dire qu'on limite le nombre de personnes qui accèdent au lieu. On demande aux personnes de se laver les mains, de porter le masque pour les adultes. Voilà. Après, donc ça, c'est quand même un grand changement par rapport au premier confinement où on nous a demandé de garder le lien avec les familles, alors même que normalement l'accueil est anonyme, que garder le lien, ça veut dire téléphoner, que du coup on se retrouve seul face à la détresse de certaines familles et que vraiment c'était très compliqué à vivre. Et pour les familles et pour nous, enfin voilà, c'était pas facile. Donc là, grand changement et chacun est libre de venir évidemment, mais ça permet quand même aux familles de souffler et aux jeunes enfants qui, du coup, le week-end peuvent pas vraiment sortir de voir aussi du monde. Ça leur permet quand même de voir du monde. Voilà. Et par rapport à nos autres activités, en fait, il a été décidé que les actions de soutien à la parentalité pouvaient être maintenues. Pareil, avec une limitation de 10 personnes par action et pareil, le respect des gestes barrières. Mais ça, c'est pareil, ça nous permet de quand même continuer de proposer des choses et surtout de s'adapter à la situation. Là, je dirais que c'est plus notre cadre associatif qui nous permet cette souplesse-là, mais on a un peu modifié notre programme pour pouvoir être au plus près des familles, par exemple en proposant un café des parents sur comment on vit ce confinement, comment on vit toute cette situation et comment on arrive à garder, à cultiver la joie dans la famille. Et puis la semaine dernière, pareil, on a fait un petit atelier entre parents sur comment cultiver la joie avec une activité créative. On a créé des tableaux de visualisation. Et ça, voilà, ça nous permet quand même ça, et ça permet de souffler à certains adultes, en tout cas, au moins.
J'ai peut-être une dernière question sur l'existence éventuelle d'un pôle enfance local.
Le PAVL, c'est une structure qui réunit les structures petite enfance et famille du plateau. Au départ, Creuse, côté Creuse, et puis ça s'ouvre quand même. Nous, on en fait partie. Il y a aussi à Perlevade, l'association Entraide du Plateau, la ressourcerie aussi qui en fait partie. Et l'idée, c'est de se réunir pour échanger sur nos actions et pour aussi en organiser ou ensemble, organiser des actions ensemble, notamment le mois de la parentalité. À Faux-la-Montagne, normalement, le 5 décembre.
Donc, alors, le 5 décembre, ce ne sera pas le mois de la parentalité,
non,
ce sera le safari des familles.
On fait le mois de la parentalité sur un jour. Voilà, c'est comme ça. Non, il y a eu toutes les actions.
Sur toute l'année. Qu'est-ce que ça t'évoque, le mois de la parentalité ?
Effectivement, nous, on est un peu toute l'année sur ce... Enfin, j'ai l'impression qu'on fait l'année, effectivement, de la parentalité. C'est pas mal de faire un zoom aussi. C'est encore une autre manière de faire découvrir les différentes structures qui existent sur le territoire qui peuvent apporter des réponses aux familles sur cette thématique. Donc voilà, c'est un événement Zoom.
Du coup, il était prévu que ce soit une semaine au mois de décembre. Il y avait un énorme programme dont beaucoup de choses sont annulées. Pour le moment, le safari des familles du 5 décembre est maintenu. Et vous allez proposer des choses ce jour-là ?
Alors nous, on est en équipe réduite, mais ce qui sera proposé de la part des Petits Bouts, c'est l'exposition qui avait été créée il y a déjà quelques années, 3 ans. C'est une exposition photo et texte qui s'appelle « Ce qui fait du bien en famille ». Et l'idée, ce sera de retrouver une chasse aux photos, en fait, un peu comme une chasse au trésor, mais une chasse aux photos. L'expo sera éparpillée sur tout le safari. Et du coup, l'idée, ce sera de retrouver les photos.
Et parallèlement, nous allons ensemble proposer un moment de discussion enregistrée aux enfants.
C'est ça.
Sur ce que c'est pour eux le travail des parents ou peut-être sur le confinement, peut-être sur...
Bah, laisser la parole aux enfants et nous dire ce qu'ils imaginent de ce que c'est que d'être parent ou comment ils s'imaginent parents plus tard aussi, ça peut être ça.
Moi, ça m'intéresserait aussi, je pense, d'avoir peut-être des retours sur est-ce que le confinement a changé leur regard sur l'école.
Oui, ça peut être intéressant aussi. Ouais.
Ça va être super. Donc, venez, nous serons... nous serons normalement, si tout va bien, dans la maison de Télé Mille Vaches, tranquillement, autour d'un petit studio, dans une super pièce lumineuse. Voilà.
Super.
Merci, Stéphanie.
De rien, merci.